Jean Rigal, une mémoire, 23e.
Bonjour Joël, bonjour David, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de CFM.
Bonjour Jean Rigal. Donc nous avions entamé lors de la précédente émission les conséquences locales de la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, dissolution qui est intervenue au mois d'avril. Je rappelle que Serge Roch avait été élu député en 1993 face à Jean-Marc Sabaté. Vous-même ne vous étiez pas représenté en 93. Donc au 21 avril 97, vous êtes maire de Villefranche, conseiller régional et membre du Parti radical socialiste.
Radical de gauche.
Et donc nous allons revenir à la désignation de ce candidat, puisque la gauche va présenter un candidat, donc ce candidat soutenu par votre parti. Donc nous en étions restés au départ de Jean-Marie Sabaté pour Montauban le 22 avril au matin, c'était dans le menu détail.
C'était très précis effectivement, mais ça valait la peine parce que c'est très important et c'est tout à fait déterminant. Donc le mardi 22 avril 1997, au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac, Jean-Marc Sabaté est dans mon bureau de maire de Villefranche dès 8h du matin. Un horaire tout à fait inhabituel pour lui qui gagne Montauban quotidiennement pour aller prendre sa fonction de chef de cabinet du président du conseil général du Tarn-et-Garonne, Jean-Michel Baillet. Jean-Marc Sabaté vient me voir et me dit que il envisage de se présenter. Du reste, depuis 1993, il s'était toujours considéré comme un candidat permanent et, si j'ose dire, investi à perpétuité. Ce qui d'ailleurs a toujours amené certaines contestations au sein du parti radical de gauche. Quant à moi, je n'ai a priori toujours aucune intention de me présenter, mais je souhaite que Jean-Marc Sabaté respecte les procédures internes de notre formation politique, c'est-à-dire qu'il n'annonce pas sa candidature avant que l'Assemblée générale départementale de la Fédération de l'Aveyron, qui a été prévue pour le jeudi 24 avril à 20h30 à Montbazin, est désigné officiellement le candidat. Et effectivement, en effet, pourquoi pas lui ? Mais pas automatiquement lui, puisque pour moi, il y a toujours d'autres possibilités. Et notamment, à cette époque-là, je l'ai dit, l'éventualité Jean-Pierre Pouzoulet, qui pour des raisons de service...
Il s'était pas présenté en
93, pour des raisons tenant au fait qu'il n'était pas encore titularisé en tant qu'administrateur... Non. Civil au moment où avait lieu l'élection de 93.
Donc on peut résumer en disant que c'était pour des raisons professionnelles.
C'était pour des raisons professionnelles et pas politiques. Donc, à mon avis, les choses ne peuvent être claires que lorsqu'on annoncera un candidat désigné. Jean-Marc Sabaté conteste un peu ma position. Il me dit, oui, tu comprends, moi maintenant, je suis secrétaire général national du parti, donc numéro 2 du parti, ce que j'ai toujours contesté, puisque pour moi, un secrétaire administratif, fût-il général national, n'a pas une fonction politique, mais une fonction administrative. Et il me dit, au parti, on nous indique qu'il faut absolument qu'on annonce nos candidats le plus tôt possible, etc. Et je trouve que jeudi 24 avril, c'est bien tard. Nous nous quittons sur ces mots, étant entendu que Jean-Marc Sabaté me semble toutefois prêt à respecter loyalement cet accord. Hein. Bon, dans le même temps... Je commence à recevoir des coups de téléphone un peu partout, de pas spécialement d'adhérents qui sont bien au courant, mais de sympathisants, d'électrices et d'électeurs de gauche qui me disent c'est une dissolution, c'est une situation d'improviste, la gauche n'est pas prête, tu devrais être candidat puisque tu es le plus connu de tous les responsables de gauche. Moi, je n'ai pas l'intention de donner suite, mais je note néanmoins que on exerce une certaine pression sur moi.
On fait votre siège, comme on disait.
On fait mon siège, mais jusque-là, moi, je n'ai pas décidé d'être candidat. Par contre, le lendemain matin, donc le mercredi 23, eh bien, les quotidiens commencent à annoncer la candidature de Jean-Marc Sabatier, qui a donc annoncé sa candidature malgré l'accord que nous avions passé, accord purement verbal, bien entendu.
Donc dès le mercredi, parce que moi j'ai juste le Villefranchois et sa candidature est annoncée le 25 avril, c'est-à-dire le vendredi au matin dans le Villefranchois.
Oui.
Mais donc le mercredi matin...
Dès le mercredi, on le savait. D'accord. Alors à ce moment-là, au lieu de penser que mon rôle était de soutenir Jean-Marc Sabatier aussi fort que possible, parce qu'il en avait besoin parmi les adhérents et les sympathisants du parti, lors de l'Assemblée Générale du jeudi 24 à Montbazin, je me suis dit que, après tout, il n'y avait pas de raison, puisque ça paraissait une bonne formule, et que je constatais un manque de loyauté, il n'y avait pas de raison que je n'envisage pas d'être candidat. Et c'est dès le mercredi que j'ai non pas annoncé ma candidature, mais que j'ai pris des mesures pour être éventuellement candidat.
Candidat à la candidature.
Première mesure, j'ai appelé mon premier adjoint Claude Penel, qui était dans son bureau à la mairie, alors que moi j'étais dans le bureau de maire, et je lui ai demandé de venir me voir. Et je lui ai demandé le plus clairement du monde si, dans le cas où je me présenterai à la députation et où je serai élu, il accepterait de prendre le relais en devenant maire de Villefranche. Bon, bien sûr, c'était un peu à brûle pour point que je lui demandais ça. Donc, il m'a demandé à réfléchir un peu. Hein. Mais néanmoins, dans la journée, il m'a donné une réponse positive. De la même manière, il me fallait un suppléant. De la même manière, et afin d'avoir une union qui soit aussi profonde que possible, j'ai téléphoné à De Casseville, à la mairie, à mon ami Pierre Gadea, également membre du Parti Socialiste, pour lui demander si dans le cas d'une candidature de ma part à la députation, et surtout dans le cas d'une élection, il accepterait d'être mon suppléant.
Oui, étant entendu que le Parti Socialiste n'avait pas pour le moment de candidat.
Le Parti Socialiste n'avait pas, à ce moment-là, n'était pas prêt. Et enfin, je ne sais pas ce qu'il aurait fait dans un autre cas de figure, puisqu'il n'y a pas eu d'autre cas de figure. Mais est-ce que il aurait à nouveau, comme en 1993, accepté, même en drainant les pieds, la candidature de Jean-Marc Sabatier, je ne le sais pas et on ne le saura jamais. Le tout est, c'est que Pierre Gadea a accepté d'être mon suppléant. Et voilà, les choses en étaient là. Et le jeudi 24 avril, donc dès que l'Assemblée Générale de Montbazin a été ouverte, et dès que le président Louis Laurent, président départemental, a fait les déclarations d'introduction, je me suis immédiatement porté candidat à la candidature. Il y a eu un très vif enthousiasme dans l'Assemblée et il n'y a pas eu d'autres candidats. Jean-Marc Sabatier étant présent.
Voilà, donc là, c'était terminé pour la candidature officielle, sauf que le Villefranchois paraissait le lendemain.
Voilà.
Et que le lendemain, donc, Sabaté confirmé et Roque jubile, c'était une fausse information.
Ben, c'était une fausse information parce que une personne avait pris l'initiative d'une annonce prématurée. Voilà. Prématurée.
Donc, ce qui les a obligés la semaine suivante à s'excuser.
Et je dois ajouter que compte tenu de la proximité du candidat à la candidature Jean-Marc Sabaté avec le président du Parti radical de gauche Jean-Michel Baillet, le journal La Dépêche m'a, dans les premières journées, quelque peu assassiné en ayant l'air de dire ce qui me faisait rire et qui faisait sans doute encore rire davantage nos adhérents et nos militants et nos sympathisants, que j'aurais été en quelque sorte un candidat illégitime. Et un de mes bons amis, journaliste à La Dépêche, avait même écrit, Jean Rigal, la valse hésitation tourne mal.
Voilà. Voilà. Donc vous aviez, de toute façon, dès la candidature officielle, vous avez l'essentiel des soutiens habituels,
oui.
À savoir que très rapidement, il n'est pas là pour le confirmer, mais Roger Lajoie-Mazin publie dans le Villefranchois qui suit tous derrière Jean Rigal, mm-hmm. Et donc le PS, du fait de votre suppléant appartenant au PS, c'est bon, désaccord en tout cas entre individus, mais peut-être même disons officialisé par les partis, le fait que M. Penel devienne maire par la suite et Gadea suppléant, donc la campagne avance et vous avez face à vous, alors là l'union de la gauche n'est pas totale puisqu'il y a un candidat du Parti communiste à la personne de Patrick Rousseau et deux autres candidats, un candidat du Front National, Marseille, et un autre candidat du mouvement pour la France de Villiers qui s'appelle Jean, il y aura confusion d'ailleurs dans les résultats entre Jean Rigal et Jean. Voilà, donc la campagne est partie et nous on va faire une première pause musicale.
Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur habillé. C'est l'année, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie et le travail aussi, que la vie est si belle et les filles si jolies, et titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. Trois paysans passeront et vous paieront. Puis disparaît dans le soleil sans régler ses consommations. Disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson.
Voilà, Germaine Montero chante Prévert, la fête continue. Donc les élections se présentent avec les deux tours, ça se passe, la campagne est rapide, hein, donc pour l'occasion, par le fait, et il y a un ballotage, hein, on a vu, c'est 40, vous obtenez 44, Serge Roque qui arrive en seconde position avec 36,54, ballotage qui est dit favorable, puisque bon, vous pourriez espérer les désistements des voix de Patrick Rousseau. Voilà, donc rien à dire sur ces élections.
Si, j'ai quand même à dire sur des choses, à mon avis, sur la campagne électorale.
Oui.
Bon, comme vous l'avez dit, cette campagne électorale a été rapide, ce qui ne veut pas dire abrégée par rapport aux campagnes classiques et ordinaires, mais elle a été immédiate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, eu de différé de livraison, si on peut dire. Hein, étant donné que, en même temps qu'il proclamait la dissolution, Jacques Chirac annonçait que l'élection était fixée au 25 mai et au 1er juin. Donc ça n'a pas réduit la durée de la campagne électorale, mais ça l'a fait commencer presque immédiatement. Aussitôt, on s'est rendu compte, moi-même, ici sur le terrain de la deuxième circonscription de l'Aveyron, mais les autres candidats de gauche partout en France, Jacques Chirac et le gouvernement qui était toujours dirigé par Alain Juppé ne parviendraient pas à expliquer sérieusement les raisons de cette dissolution. Sinon, il aurait fallu qu'ils avouent, et c'était le cas, une dissolution par convenance personnelle.
Oui, c'était une dissolution, apparaît quand même comme une dissolution tactique, effectivement.
Purement tactique, oui. De convenance personnelle, car avec l'impopularité du gouvernement Juppé et la cote de Jacques Chirac qui s'est fritée, on voyait très bien que si les élections avaient eu lieu à leur date normale, initialement prévue, qui était mars 98, bien, la droite avait les plus grandes chances de s'étioler jusque en mars 98 pour en définitive perdre les élections. Et c'est là que un certain nombre d'analystes politiques et de responsables politiques se croyant plus malins que les autres, et notamment Dominique de Villepin, avaient fortement conseillé à Jacques Chirac d'abréger les souffrances de cette majorité sortante en espérant que, tout en perdant beaucoup de sièges, elle arriverait à rester légèrement majoritaire s'il faisait une dissolution. Et ça, dans l'électorat, ça n'est absolument pas passé. La première question que l'on me posait, lorsque je faisais une réunion publique, consistait à me dire, bon, mais vous revenez comme candidat, mais à votre avis, pourquoi le président de la République a-t-il dissous? Les gens ne comprenaient pas qu'il y avait là une raison autre que d'intérêt politique personnel, particulier, donc tactique.
Ouais, voilà, donc ça c'était, on revient aux raisons de la dissolution, mais la campagne elle-même, donc ça c'est la question qui s'est posée, effectivement c'était un argument de poids pour le camp le plus faible, donc, qui allait le remplacer. Un autre argument qui est intervenu aussi, c'est un argument de dernière chance pour la majorité, c'est entre les deux tours, voyant une certaine déroute approcher, la démission d'Alain Juppé.
Tout à fait, Alain Juppé a été amené à un moment donné à démissionner, mais la pente descendante de la majorité sortante de droite était très, et son remplacement par Philippe Séguin, malgré la note sociale que Philippe Séguin pouvait amener par rapport à toutes les dégradations sociales auxquelles on avait assisté depuis quatre ans, est arrivé trop tard et n'a pas suffi à renverser la vapeur, fort heureusement.
Donc ces élections, comme je disais, localement, il n'y a pas eu de fausses notes. Hein. C'est une fois les candidats présentés, chacun a fait sa campagne. Il y a eu de nombreuses réunions publiques, hein, bien argumentées et bien suivies même. Et puis donc vous avez été élu au second tour avec un beau score.
Alors effectivement, moi j'étais en tête au premier tour avec 44-35%. Devant Serge Roch, qui était le sortant UDF, avec 36,54. Le candidat du Parti communiste, Patrick Rousseau de Capdenac, avait plus de 9,5%.
9,55, oui.
Il avait un très bon score. Et bon, moi, j'étais tout à fait ravi qu'il y ait un candidat communiste, parce que je crois qu'effectivement, le candidat communiste est plus que tout autre à même de mobiliser le monde ouvrier. Je regrette que depuis certaines choses aient changé et que, par exemple, en 2007, à l'élection présidentielle, Sarkozy ait réussi à mobiliser les milieux ouvriers alors que c'était leur pire ennemi. Hein. Mais donc, je me félicite qu'il y ait eu un candidat du Parti communiste et qu'il ait fait un excellent score. Ce qui, de plus, me permettait d'envisager une réserve de voix importante pour le deuxième tour. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé.
Donc, élection à Villefranche, le candidat sortant UDF, donc étant battu, ça ne s'est pas passé qu'ici, puisque la majorité a changé et est accédé au poste de Premier ministre, Lionel Jospin, avec...
Il n'y a pas eu un renversement de majorité absolument totale, hein, car je rappelle une fois de plus qu'en 1993, la gauche n'avait que même pas 90 sièges le soir de l'élection. Bon, là, ce qu'on a appelé par la suite la majorité plurielle, qui comprenait donc les socialistes, les radicaux de gauche, les communistes et le mouvement des citoyens, le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, plus certaines diverses gauches apparentées, la majorité plurielle a eu 320 élus. 320 élus, ce qui a laissé quand même 257 à la droite. Ils étaient moins ridicules que nous l'avions été. Et disons que dans leur rang, les principales victimes ont été justement ceux qui avaient été, comme Serge Roque, des députés accidentels en 1993.
Bon, là, on a déjà abordé cette question. Je crois qu'on va faire une deuxième pause musicale et voir si on a un peu de temps pour la question d'actualité. Jean Régal, c'était la première rencontre entre Lino Ventura et Jean Gabin, mais je vous ai mis cette musique pour l'actualité parce que on avait dit que l'année 95 avait été importante pour marquer d'une pierre blanche dans l'histoire politique française. Et justement, on est rattrapé par cette année 95 puisque deux des candidats des élections présidentielles de 95 sont sur la sélecte actuellement, Charles Pasqua qui est donc devant un tribunal et Balladur qui est mis en cause par le journal Libération il y a peu de temps. Quel est votre avis là-dessus ?
Ben écoutez, moi j'ai pas spécialement d'avis parce que je suis pas exactement au courant, mais c'est vrai que c'était la grande époque de la fraude dans les financements des campagnes électorales. C'est très exactement ce qui est reproché à Édouard Balladur d'une part pour sa campagne électorale présidentielle de 95 et à Charles Pasqua pour sa campagne électorale européenne de 1999 où il avait fait une liste commune avec Philippe de Villiers précisément. Moi, il ne m'appartient pas de porter des jugements sur des faits dont j'ignore totalement l'authenticité, mais c'est sûr que ça prouve qu'il y a eu et qu'il y a sans doute encore dans certains milieux politiques des mœurs qui n'ont rien à voir avec la pratique, la rigueur républicaine telle que l'a préconisé Robespierre, qui appelait ça la vertu.
Et vos campagnes, où elles sont? Elles étaient financées comment?
Eh bien, elles étaient financées par les moyens légaux, c'est-à-dire par la mise à disposition de matériel, de moyens. Il y avait des financements par la préfecture, à condition de réaliser 5% des voix.
Oui, ça c'est a posteriori, oui.
Et on le savait donc a posteriori, il fallait engager de l'argent. Alors on engageait ça sur les caisses du parti, et parfois sur des fonds personnels, dont on était ultérieurement remboursé.
Voilà, donc
il y avait aussi, étant donné qu'à l'époque l'affichage était dit affichage militant, puisqu'on n'était pas obligé, contrairement à ce qui s'est passé après, de recourir à des entreprises d'affichage désignées par la préfecture, on récupérait des sommes pour l'affichage
qui
n'étaient en fait pas dépensées, puisque c'était bénévolement que les adhérents, les sympathisants, que l'on remerciait ensuite par ailleurs, notamment un grand vin d'honneur ou un petit repas à la sortie.
Voilà, donc on en restera là pour cette émission. Merci Jean Régal, merci David qui nous a suivi la technique, et à la semaine prochaine.